Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question aussi vieille que la politique elle-même, le pouvoir. Ou plutôt, comment on s'assure que ceux qui l'ont ne finissent pas par nous écraser avec?
Oui, c'est une mécanique d'horlogerie vraiment délicate. Et on va voir comment l'ère du numérique, avec la surveillance de masse, est en train de jeter une énorme clé à molette dans tous ses rouages.
Exactement. Et pour nous guider, on a deux textes vraiment stimulants de Julien Lecomte.
Oui, un premier de 2024 qui est une réflexion sur ce qu'il appelle les contre-pouvoirs, ces garde-fous essentiels. Et un second, un peu plus ancien, de 2013, mais qui est d'une actualité brûlante sur la surveillance de masse. Notre mission, du coup, comprendre cette architecture classique qui est censée nous protéger des abus et se demander si elle tient encore la route aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Alors pour commencer, ce qui est intéressant, c'est que les sources nous prennent un peu à contre-pied.
Oui, on a tendance à penser que la solution en démocratie, c'est que le peuple décide de tout, non ?
C'est l'idée reçue, en effet. Mais l'auteur, Julien Lecomte, la met de côté d'emblée. Il ne présente pas du tout l'utopie d'une démocratie absolue comme une solution miracle. Au contraire, même, il y voit un risque.
Attendez, c'est contre-intuitif, ça. Si on écarte l'idée que le peuple doit diriger, est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans une sorte de technocratie où une élite décide pour tout le monde?
C'est une excellente question, parce que c'est précisément le piège. Mais le raisonnement est plus subtil. Le problème n'est pas de dire que le peuple a tort, mais que la majorité peut avoir tort.
Ah oui.
L'histoire est pleine d'exemples où une majorité, même bien intentionnée, a écrasé les droits des minorités. Du coup, le véritable enjeu, ce n'est pas tant de savoir qui détient le pouvoir.
D'accord.
Le peuple, un roi, des experts, peu importe. Mais comment ce pouvoir est structuré? L'idée, c'est d'empêcher qu'il ne se concentre en un seul point. C'est ça, le venin de l'absolutisme, en fait.
Je vois. Ce n'est pas le qui, c'est le comment. Le problème n'est pas la personne qui a le pouvoir, mais l'absence de limite à ce pouvoir. C'est pour ça que même des dictateurs peuvent arriver au pouvoir par les urnes, en fait.
Précisément. Une fois au pouvoir, s'il n'y a pas de garde-fou, ils peuvent démanteler la démocratie de l'intérieur. Et c'est là qu'intervient la solution classique, théorisée notamment par Montesquieu.
Ah, la fameuse formule de l'esprit des lois.
Exactement.
Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça sonne presque comme une loi de la physique politique.
C'est exactement ça. C'est une approche d'ingénieur, pas de moraliste. On ne compte pas sur la vertu des dirigeants, mais sur la robustesse de l'architecture institutionnelle. Le système doit s'auto-réguler.
D'accord. Alors, explorons cette architecture. Quand on dit « le pouvoir arrête le pouvoir », l'image qui vient tout de suite, c'est la fameuse séparation des trois pouvoirs.
C'est le socle. On apprend ça à l'école, mais on en oublie parfois la puissance. On a d'un côté le pouvoir législatif.
Le Parlement, ceux qui écrivent les lois.
Voilà. De l'autre, le pouvoir exécutif.
Le gouvernement, qui met en œuvre ses lois.
C'est ça. Et enfin, le pouvoir judiciaire, les juges, les tribunaux, qui s'assurent que tout le monde, y compris le gouvernement, respecte les règles.
Exactement. Et l'idée, c'est qu'ils se surveillent mutuellement. Un juge peut bloquer une loi, un Parlement peut renverser un gouvernement. C'est ce que les Américains appellent les « checks and balances ».
Un jeu d'équilibre permanent.
Voilà. Quand un dictateur concentre ses trois pouvoirs, il est littéralement juge et parti. La séparation rend ça impossible. Cette architecture est la base, c'est vrai, mais elle me semble très...
institutionnelle. Je me demande si les sources s'arrêtent là ou si elles évoquent des contre-pouvoirs plus ancrés dans la société.
Absolument. Et c'est là que ça devient passionnant. Les sources décrivent un véritable écosystème démocratique. Les trois pouvoirs, ce n'est que le squelette. Autour, il y a la chair et le sang.
D'accord.
Le premier contre-pouvoir le plus célèbre, c'est bien sûr la presse.
Le fameux quatrième pouvoir.
Mais qui est aujourd'hui lui-même en crise, non? C'est un contre-pouvoir qui semble de plus en plus fragile. C'est un point crucial que les articles soulignent. L'indépendance et la diversité de la presse sont la clé. Si toute l'info est contrôlée, ce contre-pouvoir s'évapore. Mais quand il fonctionne, il est vital. Ensuite, les sources mentionnent quelque chose de plus structurel. Les textes légaux supérieurs. Une constitution, par exemple.
Exactement. Une constitution, c'est un texte qui se place au-dessus des lois ordinaires. Elle est volontairement très difficile à modifier pour qu'un gouvernement de passage ne puisse pas, sur un coup de tête, supprimer des droits fondamentaux.
C'est un rempart, en quelque sorte.
Oui, un rempart conçu pour durer. Dans le même esprit, il y a le droit supranational.
Là, on parle de textes comme la Convention européenne des droits de l'homme.
C'est ça, des traités que les pays signent et s'engagent à respecter. Ça force les États à respecter un socle de droits communs, ça leur met une barrière extérieure.
D'accord. Et il y a autre chose.
Oui, un contre-pouvoir qui vient d'en bas, la société civile. C'est-à-dire nous, en fait, les associations, les syndicats, les ONG. Toutes ces organisations qui permettent aux citoyens de se regrouper, de peser sur le débat public, d'interpeller les politiques en dehors des élections. Un gouvernement qui fait face à des manifestations massives ne peut pas l'ignorer. C'est une force immense. Ce qui nous amène au dernier contre-pouvoir mentionné, qui est peut-être le plus diffus de tous, l'éducation. C'est la fondation de tout le reste. L'auteur insiste vraiment sur ce point. Une école qui apprend aux enfants à obéir sans réfléchir fabrique de futurs sujets.
Alors qu'une école qui leur apprend à questionner, à débattre, fabrique de futurs citoyens.
Voilà. S'en met des esprits critiques plutôt que des robots prêts à l'emploi, comme le dit le texte, c'est le meilleur investissement démocratique à long terme. D'accord. On a donc ce tableau, une mécanique complexe, un écosystème fragile, et là-dessus arrive un astéroïde. L'article l'appelle la surveillance de masse, mise en lumière par des gens comme Edward Snowden. Comment est-ce que ça vient dynamiter tout cet équilibre?
Ça le dynamite parce que ça crée une concentration de pouvoir d'une nature et d'une échelle totalement inédite. C'est un pouvoir invisible, permanent et total. Snowden a une citation qui est au cœur d'un des articles et qui change toute la perspective. Ah oui. Il dit: les personnes qui disent je n'ai rien à cacher comprennent mal le but de la surveillance. Cela n'a jamais été une question de vie privée. C'est une question de pouvoir. Waouh, c'est une question de pouvoir, la phrase est brutale. Donc on se trompe de débat quand on parle de nos photos de vacances. Le vrai sujet, c'est le rapport de force entre l'État et le citoyen. Il est complètement inversé. Le principe de Montesquieu est fondé sur la transparence, la capacité de chaque pouvoir à observer l'autre. Ici, on a une asymétrie totale. L'État sait potentiellement tout sur des millions de citoyens, tandis que ces citoyens, eux, ne savent presque rien de la manière dont ils sont surveillés.
C'est ça, le pouvoir qui surveille n'a plus de contre-pouvoir, il opère dans l'ombre.
Pourtant, et c'est le paradoxe, une bonne partie de la population ne semble pas s'en émouvoir plus que ça. L'article de 2013 est intéressant là-dessus. Il dresse une sorte de typologie des réactions.
Oui, et c'est un miroir assez juste de ce qu'on entend encore aujourd'hui. L'auteur identifie trois postures qui empêchent une prise de conscience collective. Il y a d'abord les naïfs ou les ignorants.
Ceux qui tombaient des nues.
Voilà, ceux qui, avant les révélations, balayaient ça d'un revers de la main en parlant de complotisme, et qui sont tombés de leur chaise en découvrant l'ampleur du système.
Le réveil a dû être brutal. À l'opposé, on trouve ceux qui savaient, ou en tout cas le prétendent.
Ce sont les fatalistes ou les moralisateurs. C'est l'attitude du « on vous l'avait bien dit ». Ils sont très forts pour citer Orwell, mais ils proposent rarement les solutions concrètes. Il y a une sorte de confort intellectuel dans le pessimisme.
Et puis, il y a la troisième attitude, sans doute la plus commune, et celle qui, selon l'auteur, pose le plus de problèmes, celle des négligents ou des égoïstes. Et elle se résume en une phrase: je n'ai rien à cacher. Ah, l'argument massue. Celui qui veut clore la discussion avant même qu'elle ne commence.
Exactement.
C'est vrai qu'on l'entend partout, celui-là. Spontanément, je me dis que le premier problème, c'est qu'on ne sait jamais ce qui, dans le futur, sera considéré comme suspect.
C'est exactement le premier point et le plus fondamental. Ce qui est une opinion banale aujourd'hui, une participation à une manif, la lecture d'un article, pourrait dans 10 ou 20 ans, sous un autre régime, devenir un critère de suspicion.
Les données collectées aujourd'hui pourraient servir à ficher et à neutraliser toute opposition future.
Voilà. Et au-delà de ce risque, il y a un danger plus immédiat, une sorte d'accoutumance.
C'est là qu'intervient la fable de la grenouille. C'est ça?
Oui, tout à fait. Si vous mettez une grenouille dans l'eau froide et que vous augmentez la température très très lentement, elle s'habitue, s'engourdit et finit par mourir ébouillantée sans avoir réagi.
Et nous sommes les grenouilles. On accepte une nouvelle caméra ici, une nouvelle loi sécuritaire là. Chaque étape semble justifiée, mais à la fin, on se retrouve dans une société de surveillance généralisée.
C'est la stratégie des petits pas. Et cela nous mène à la dernière faille de l'argument « je n'ai rien à cacher », qui est d'ordre moral. C'est une posture en fait profondément égoïste.
Ah oui, Snowden, encore lui, le résume de manière percutante. Ne pas se soucier du droit à la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher, c'est comme ne pas se soucier de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. C'est puissant. En gros, ce n'est pas parce que moi, je ne me sens pas menacé aujourd'hui que je dois me désintéresser d'un droit qui est vital pour d'autres.
Exactement. Pour les journalistes, les militants des droits humains, les lanceurs d'alerte, pour eux, la vie privée n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Dire « je n'ai rien à cacher », c'est les abandonner.
Donc, les solutions qu'on entend parfois, du type « il faut juste faire attention à ce qu'on publie
C'est complètement à côté de la plaque.
», c'est anecdotique.
Oui, c'est traiter un problème systémique avec des pansements individuels. Le problème, ce n'est pas de gérer sa réputation en ligne, c'est de rééquilibrer collectivement les pouvoirs. La réponse ne peut donc être que collective et politique. On en revient donc à ce conflit central. D'un côté, des principes hérités des Lumières, et de l'autre, une technologie du XXIe siècle à qui concentre le pouvoir de manière invisible. C'est un peu David contre Goliath. Et un Goliath qui avance masqué. Les sources nous rappellent, en citant Umberto Eco, que ces menaces n'arrivent jamais en annonçant la couleur. Eco disait « L'ultrafascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. » Ce qui me frappe, c'est que la justification est presque toujours la même, la sécurité. On nous vend la surveillance comme un bouclier. C'est là que l'autre citation, de Michael Rosen, est glaçante de vérité. Il explique que le fascisme ne se présente jamais en disant « Bonjour, notre programme, c'est la dictature ». Il arrive en se présentant comme un ami. Un ami qui va restaurer l'ordre, qui va vous protéger, qui va vous redonner votre fierté. Et la surveillance, c'est cet ami qui vous veut du bien.
C'est l'argument le plus efficace qui soit. Face à cet ami un peu trop envahissant, comment est-ce qu'on fait alors? Si les anciens outils sont mis à mal, le combat est perdu d'avance.
Non. La conclusion des articles n'est pas fataliste, bien au contraire. Elle est exigeante. La première étape, c'est déjà la prise de conscience. Comprendre que la vie privée, c'est une question de pouvoir.
Et ensuite?
Ensuite, l'action doit être collective. Soutenir une presse d'investigation réellement indépendante, participer à des associations citoyennes qui se spécialisent dans la défense des libertés numériques.
Et au niveau des lois, on ne peut pas juste compter sur la bonne volonté, j'imagine.
C'est le nerf de la guerre. Il faut exiger, via le débat politique, de nouvelles protections légales, de nouveaux garde-fous pensés pour ce monde numérique, des lois qui encadrent strictement la collecte de données, qui garantissent le chiffrement.
Il faut recréer des contre-pouvoirs, en fait. Voilà. La logique de Montesquieu reste notre meilleure boussole. Alors, le pouvoir doit continuer d'arrêter le pouvoir, même si ce pouvoir prend la forme d'un algorithme. Si on résume, l'équilibre des pouvoirs, c'est un peu comme un jardin fragile. Les principes de séparation, les contre-pouvoirs, ce sont les plans du jardinier. Mais la surveillance de masse, c'est une nouvelle espèce invasive qui menace de tout étouffer.
C'est une excellente image. Il nous faut donc inventer de nouveaux outils de jardinage, de nouveaux remparts pour protéger cet écosystème. La vigilance constante et l'innovation démocratique sont devenues une nécessité.
Si la presse a longtemps été considérée comme le quatrième pouvoir, indispensable à l'ère industrielle, à quoi pourrait bien ressembler le cinquième pouvoir, capable de faire réellement contrepoids aux géants de la tech et aux États-Unis à l'ère de l'information?